Le cri du bistouri, une émission sur la santé proposée par le collectif CHU Action Santé, animée par Hélène Cordon et Agnès Moussion.
Bonjour, le cri du bistouri, c'est 5 émissions hebdomadaires avec débats, échanges, témoignages, expertises proposées par le collectif CAS CHU Action Santé, qui regroupe Attaque 44, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne, avec Nantes, Association de veille écologiste et citoyenne, la CGT-CHU, la FSU, Europe Écologie Les Verts, Ensemble, la France Insoumise, Nantes en commun, le NPA Nantes, Saint-Herblain en commun et YFC, les jeunes pour le climat.
En ce début d'année 2022, le système de santé français se trouve dans une situation extrêmement difficile pour les personnels et inquiétante pour les usagers. L'organisation actuelle ne répond plus aux besoins de la population. Les exemples de problèmes d'accès aux soins se multiplient, déserts médicaux, délais d'attente très longs pour certaines spécialités médicales, dépassement d'honoraires, renoncement aux soins, manque de soignants, perte de chance pour les patients. La situation est tellement dégradée qu'elle nécessite une réflexion poussée et un investissement de tous ceux qui ne souhaitent pas le passage d'une santé publique à une santé privée.
Donc aujourd'hui, c'est la dernière émission du cycle d'émissions santé proposée par le collectif CHU Action Santé. Nous avons parlé à l'occasion de ces émissions des CHU, du secteur médico-social, des besoins, enjeux, financement de la santé, de la précarité en santé. Et aujourd'hui, notre dernière émission va permettre de se projeter un petit peu dans l'avenir, dans le futur, avec quelle santé pour demain, la santé étant entendue dans tous ses aspects.
Et pour en parler avec nous en visioconférence, Marie Kayser, médecin généraliste à la retraite qui participe à la rédaction de la revue Pratique. Bonjour Marie. Lucie Febraud, médecin généraliste en activité, membre du collectif des outils du soin. Lucie, bonjour. Et vous êtes toutes les deux membres du syndicat de la médecine générale, le SMG. Et Marc Schoen, médecin généraliste également à la retraite, médecin de formation, président honoraire de l'Institut Renaudot, président de la commission prévention au sein de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie des Pays de la Loire et membre du bureau de l'IREPS, l'instance régionale en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire. Il s'agit d'une association. Bonjour Marc.
Marie et Lucie ont publié sur le site du SMG et dans la revue Pratique une réflexion approfondie sur le thème du changement radical dans l'organisation de la santé. Les liens sont à retrouver sur les sites de Jet FM, du collectif CHU Action Santé et sur celui d'Attaque 44.
Et Marc s'inscrit dans la démarche de la charte d'Ottawa qui encourage la promotion de la santé et agit dans le cadre du collectif Santé communautaire des Pays de la Loire. Il est aussi l'auteur de Histoire de santé, 30 ans à Saint-Denis, sorti en 2020.
Lucie va commencer avec la notion de territoire et de démocratie sanitaire, avec nos excuses pour le son qui est un peu déformé, et Marie poursuivra avec l'organisation d'une santé pour toutes et tous près de chez soi.
Merci de nous inviter à parler de notre travail. Pour le réaliser, donc sur les questions d'organisation territoriale de santé, nous sommes partis de plusieurs constats. Premièrement, la santé n'est pas un état uniquement individuel, mais largement un état collectif. Et pour avoir la moindre efficacité, les actions de santé publique doivent donc prendre en compte les facteurs de risque liés au mode de vie, au travail, à l'environnement. Deuxièmement, les inégalités de santé sont des inégalités sociales. L'espérance de vie des ouvriers est plus courte de 7 ans que l'espérance de vie des cadres. Et donc, les actions dans le domaine de la santé doivent s'articuler à des actions dans le domaine social. Troisièmement, les niveaux d'instruction, de connaissances et donc les façons de dire le corps, la douleur ne sont pas les mêmes, tout comme les traditions familiales, locales ou communautaires ne sont pas les mêmes. Le soin n'a donc de sens que s'il s'accompagne d'une transmission, d'une explication qui prenne en compte la personne à qui l'on parle. Quatrièmement, la question de l'accès effectif aux soins est une question à la fois géographique et financière. Cinquièmement, sur un nombre important d'épisodes de soins, plusieurs professionnels interviennent en même temps ou dans des temps très proches. Il faut donc une bonne coordination entre les différentes catégories de professionnels et les différents lieux de suivi des usagers ou usagères, qu'il s'agisse des lieux de premier recours ou des lieux d'hospitalisation. Par ailleurs, nous avons aussi eu besoin de définir la notion de territoire. Pour nous, le territoire de santé est le lieu où on se donne les moyens de connaître l'état de santé de la population. Il doit prendre en compte les déterminants en santé publique. Il n'y a donc pas un territoire, mais des territoires. Et le périmètre de ceux-ci est différent selon la problématique à prendre en charge. S'il s'agit par exemple de caractéristiques sociales ou culturelles d'une population, avec la mise en place de médiations issues des groupes sociaux pour accompagner des habitants dans leur parcours de soins, le territoire va être celui du quartier. S'il s'agit de la recherche de causes de clusters de cancers pédiatriques, cela va se faire sur les territoires concernés. Par exemple, en Loire-Atlantique, il existe la situation des communes de Sainte-Pazanne et environnants. S'il s'agit de la protection des populations des rives du Rhône vis-à-vis de la pollution en métaux lourds, le territoire va concerner tous les secteurs des Alpes jusqu'à la Méditerranée. C'est à partir de cette connaissance des territoires que doivent être définis les besoins en santé. Il y a donc là un enjeu politique. Les groupes de population doivent pouvoir reprendre en main leurs problématiques de santé face à une organisation actuellement très centralisée et imposée. Une réelle démocratie sanitaire de proximité permettrait ainsi de faire émerger de réels besoins et d'organiser localement un système de santé dans une logique citoyenne et d'échapper aux logiques capitalistes, toxiques elles aussi dans le milieu de la santé. Il est donc clair pour nous que l'organisation actuelle du système de santé n'est absolument pas satisfaisante. Si nous voulons un système de santé au service de la population, il faut que les financements nécessaires à leur mission soient attribués à l'hôpital public, à l'accompagnement des personnes âgées tant en établissement qu'au domicile, ainsi qu'aux établissements médico-sociaux. Mais il faut aussi changer radicalement l'organisation du système de santé. Nous avons décliné sous quatre angles principaux les changements possibles de notre point de vue, en abordant pour chacun d'entre eux les principes qui les guident, les changements nécessaires, dont une partie est possible aujourd'hui et déjà mise en œuvre dans différents lieux, et également les changements qui ne pourront se faire que demain, car nécessitant des changements sociétaux plus radicaux. Je rappelle que ces propositions n'ont pas vocation à être exhaustives, mais à ouvrir le champ des possibles. Nous pensons essentiel que les habitants et habitantes, ainsi que les professionnels de santé, se saisissent de ces questions. Donc je vais vous parler du premier angle, qui est celui de la démocratie sanitaire, tant locale que nationale. Pour nous, partager des réalités quotidiennes conduit à constituer de fait des communautés qui sont les mieux placées pour identifier les besoins réels et en fonction, mettre en place les actions nécessaires pour y répondre. Cela implique d'intégrer les habitants et habitantes à toutes les étapes de la définition et de la réalisation du projet d'organisation de santé sur un territoire donné, dans une réelle démarche de santé communautaire. Cela requiert également de créer et animer des espaces collectifs, qu'on pourrait appeler des conseils locaux de santé, où se réunissent, échangent, élaborent des habitants et habitantes, des professionnels, des élus, et pas seulement des associations ou structures instituées. L'existence même de ces espaces redonne du pouvoir d'agir aux premiers et premières concernées. C'est un facteur d'amélioration de la qualité de vie des personnes. Pour être viable et pérenne, ces espaces doivent exercer concrètement leur pouvoir de décision et de contrôle sur les réalités quotidiennes du système de santé. Les règles de fonctionnement doivent être établies collectivement et explicitement, de manière à ce que chacun et chacune puisse s'en emparer. La démocratie locale sanitaire participative émerge ainsi et deviendrait une pierre angulaire d'une organisation territoriale de santé aux décisions qui seraient ascendantes et non plus descendantes. Les instances nationales, telles que le ministère de la Santé, les caisses nationales d'assurance maladie, serviraient alors à mettre en place des mécanismes d'équité entre territoires, avec le transfert de certaines ressources d'un territoire à l'autre. Le principe égalitaire du chacun-chacune donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, devant là aussi s'appliquer. Cela implique également d'interroger et de travailler collectivement la notion de besoin. Partir des besoins exprimés spontanément par la population risque de renforcer en fait les inégalités de santé, les catégories socio-professionnelles les plus favorisées ayant plus de facilité et d'opportunités pour exprimer leurs besoins. Dès aujourd'hui, nous pouvons favoriser l'appropriation des questions de santé par tous et toutes. Il faut pour cela développer les débats qui existent autour des questions de soins et de santé. Cela se fait déjà à l'initiative de certaines associations citoyennes locales, par exemple à Nantes, le collectif Animation Santé, ou dans la région de Sainte-Pazanne, l'association Stop au cancer de nos enfants, ou au niveau national avec des associations telles que le collectif de défense des maternités et hôpitaux de proximité, ou dans des groupements de soignants tels que le collectif Interhôpitaux. Cela se fait aussi au sein des centres de santé communautaires, où des ateliers de santé sur différents thèmes sont animés par des professionnels du centre ou par des habitants et habitantes, et où il existe aussi souvent un espace où les personnes réfléchissent sur le fonctionnement du centre de santé, sur ce qui manque ou dysfonctionne sur le territoire, et qui a donc un impact sur la santé, et où les personnes peuvent faire des propositions pour essayer d'y remédier.
Lutter contre les inégalités sociales de santé et favoriser l'accès aux soins et aux droits doit être la priorité, tant des professionnels sur le terrain que des organisations et institutions sanitaires. Donc, ça se passe à deux niveaux, c'est l'accès aux soins. D'une part, au niveau géographique, le lieu de vie ne doit pas être une source de limitation de l'accès aux soins ni de l'accès aux droits. Donc, il faut un maillage territorial qui garantit à tous et toutes un accès aux soins dans un délai et une distance cohérente avec le bassin de vie. Et cela doit être mis en place de façon pérenne. Et ce maillage doit prendre en considération les disparités existantes entre les différents territoires avec des mécanismes d'équité et des transferts de la part des territoires les plus favorisés vers les territoires les moins favorisés. Mais ce maillage, il ne doit pas dépendre, comme maintenant, uniquement des décisions des professionnels. Cela doit se faire dans le cadre d'une véritable démocratie sanitaire. Au niveau financier, les ressources financières ne doivent pas être un facteur de renoncement aux soins. Donc, il faut mettre fin aux dispositifs qui limitent financièrement l'accès aux soins, tels que les franchises, le ticket modérateur et dépassement d'honoraires. Donc, nous voulons la mise en place d'une véritable assurance maladie obligatoire, prenant en charge tous les soins à 100% pour toute personne vivant sur le territoire. Cela acterait la fin des dépassements d'honoraires et la fin des assurances complémentaires. Les moyens financiers qui, aujourd'hui, alimentent les intérêts privés reviendraient de ce fait dans le giron du service public et pourraient permettre de financer des soins qui, à l'heure actuelle, ne sont pas remboursés et qui pourraient donc être pris en charge. Donc, les mesures concrètes pour mettre en œuvre ces principes, dès aujourd'hui, c'est possible. Et pour nous, tous les professionnels de santé qui travaillent dans une organisation territoriale de santé recevant de l'argent public, tels que les communautés professionnelles de santé, les pôles de santé, doivent s'engager à être en secteur 1, sans dépassement d'honoraires, et doivent s'engager aussi à pratiquer le tiers payant, à prescrire chaque fois que c'est possible des soins remboursés et à adresser les personnes soignées à des professionnels de santé et des structures ne pratiquant pas de dépassement d'honoraires. Demain, l'accès aux soins sera libre et équitable. Alors, on en a parlé tant d'un point de vue économique, c'est la mise en place de l'assurance maladie obligatoire réellement universelle, couvrant tous les habitants. Il ne doit plus y avoir de cas particuliers tels que l'aide médicale d'État. Et pour faciliter l'accès aux droits des personnes, il faut réellement un régime unique d'assurance maladie, évitant ainsi les gens qui se retrouvent dans des no man's land entre, par exemple, un régime agricole et un régime salarié, avec toutes les difficultés d'accès aux droits à ce moment-là. Il faut aussi rétablir les accès physiques à des antennes locales de l'assurance maladie, au lieu de tout fonctionner avec le numérique. Au niveau du médecin traitant, le ou la médecin traitant au sein d'une équipe de travail ne doit pas être la personne qui conditionne le remboursement des gens, mais celui ou celle qui va l'accompagner, qui l'accueille, qui l'accompagne et qui s'engage dans son suivi. Et nous avons vu que la prise en charge de l'assurance maladie devrait s'étendre à des soins qui sont actuellement non remboursés, mais qui peuvent être différents selon les niveaux locaux. Par exemple, ça peut être des transports pour accéder à certains services de santé dans des zones géographiques isolées, ou bien ça peut concerner toute la population, bon, telle que la prise en charge de consultations chez des psychologues ou psychomotriciens. Donc, nous venons de voir l'accès aux soins au niveau financier, au niveau géographique. La carte des lieux de soins doit être revue pour mettre en place une offre de soins de premier recours permettant aux usagers et usagères d'éviter les passages aux urgences, ceux qui sont inutiles, et des hospitalisations inutiles, mais aussi offrir des lieux d'hospitalisation publique de proximité en lien avec le premier recours. Ce qui veut dire pour nous que la liberté d'installation doit être interrogée. Ce n'est pas possible de continuer à ce que soient les professionnels du soin qui décident de la répartition géographique de l'offre de soins. D'autres régulations doivent être débattues démocratiquement par la population. On sait que l'installation des professionnels est facilitée, d'une part par l'aide à la recherche de locaux, mais aussi par l'attractivité que représentent des modes de fonctionnement collectifs et un travail en coopération et aussi la formation d'étudiants dans ces zones-là. L'ensemble des décisions à ce niveau-là doit être prise dans un réel processus de co-décision avec les habitants et habitantes et usagers, usagères au niveau concerné. Ça, c'était pour l'accès aux soins. Maintenant, nous avons bien vu que la santé ne dépendait pas que de l'accès aux soins. Donc, le troisième grand poste, c'est des missions de santé publique de proximité. Améliorer la santé et la qualité de vie sur un territoire donné nécessite une identification précise des problèmes et surtout de leurs causes. Ça signifie enquêter sur les risques présents, environnementaux, sociaux, psychologiques liés au travail. Et c'est l'ensemble de la communauté qui doit être impliquée dans cette recherche de facteurs et dans la mise en œuvre de prévention, d'actions de prévention et de réduction des risques. Les trois dimensions d'éducation sociale et sanitaire doivent être connues comme partie intégrante de la santé au sein d'un véritable service public de santé. Et les différents niveaux d'accompagnement des soins, d'accompagnement et de soins doivent être coordonnés entre eux, d'une part de façon verticale, entre soins primaires, spécialistes, ambulatoires et hôpitaux, mais aussi de façon horizontale, géographique. Pour ça, les mesures concrètes. Il y a déjà aujourd'hui un certain nombre d'actions de santé publique qui sont menées. Je vais donner certains exemples. Il peut s'agir de l'accompagnement à la santé de la population avec les moyens de l'éducation populaire et à travers l'accès à la médiation, voire le fonctionnement dans les centres de santé communautaires et les actions qu'ils mènent. Il peut s'agir aussi, si on voit localement, de l'interprétariat en santé et de l'accompagnement des migrants, tel que ça se fait au niveau de la Loire-Atlantique par la SAMLA, à travers la SAMLA, Association Santé Migrants de Loire-Atlantique. Il peut s'agir aussi de l'analyse des causes environnementales des maladies. On a parlé du travail du collectif de Sainte-Pazanne par rapport au cluster de cancer pédiatrique, ou l'exemple sur le pourtour de l'étang de Berre, qui malheureusement n'a pas continué, de mettre en lien, établir une cartographie des risques au niveau des différents postes de travail. Il peut s'agir aussi de la participation à des dispositifs tels que le dispositif ASALE, qui est un dispositif de coordination médecin généraliste infirmier pour l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques à travers l'éducation thérapeutique du patient. Enfin, ça peut être des développements de partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation. Donc, tous ces exemples sont déjà des choses qui existent, mais qui existent dans des endroits donnés et pas toujours de façon pérenne. Pour que demain, la santé publique soit un levier de transformation sociale, il faut d'autres changements pour éviter que ces actions ne dépendent du volontarisme des soignants et soignantes ou des habitants et habitantes. Et puis, pour les développer donc, et garantir leur pérennité. Donc, il faut créer des équipes multidisciplinaires qui ne se limitent pas au champ strict du soin et dont les missions prioritaires seraient déterminées par la communauté. Bien sûr, il faut que les professionnels soient formés à ces missions de santé publique. Il faut aussi que leur statut leur permette de passer du temps et que les professionnels de premier cours ne soient plus considérés uniquement comme des dispensateurs d'actes. Donc, que leur rémunération prenne en compte l'ensemble de leur mission. Donc, il faut avoir la possibilité de sortir du paiement à l'acte, qui est aujourd'hui le mode de rémunération dominant, et développer des modes de rémunération alternatifs qui peuvent être des paiements forfaitaires ou la rémunération à la capitation, tel qu'il peut exister dans les maisons médicales belges, ou des modes de rémunération tels que le salariat.
Merci à toutes les deux. Marc, à toi de prendre la parole.
Bonjour. D'abord, j'avais envie de dire un grand bonjour à mes amis du syndicat de la médecine générale que je rencontre à cette occasion avec grand plaisir. Je vais ici m'exprimer uniquement avec la casquette du collectif Santé communautaire des Pays de la Loire. Ce collectif Santé communautaire des Pays de la Loire a une existence de 3-4 ans, regroupe un certain nombre d'associations, AIDE, Médecins du Monde, Essentiel, les Forges Médiation sur la région des Pays de la Loire, avec l'idée d'une part de repérer ce qui se fait en matière d'action communautaire sur la région, d'autre part, de contribuer par ce rassemblement associatif à promouvoir cette stratégie de santé communautaire sur les Pays de la Loire. Vous le savez sans doute, mais j'ai trouvé que c'était amusant qu'un rapport vient de sortir il y a quelques jours, le rapport Chauvin, qui a été commandé par les pouvoirs publics et qui s'intitule « Dessiner la santé de demain ». Donc, c'est le titre de l'émission et j'ai trouvé ça intéressant de constater que c'est le même titre. Alors bon, c'est un rapport de beaucoup de pages qui propose un certain nombre de pistes pour la santé de demain. Je me garderai de faire une analyse de ce rapport. Et pour la discussion de ce matin, j'avais quand même envie d'insister que sur deux points. D'une part, la notion, mes consoeurs l'ont déjà évoquée, mais je voudrais un tout petit peu développer. D'une part, la question de l'approche globale de la santé, et d'autre part, l'implication conjointe de tous les acteurs. Alors, sur l'approche globale de la santé, c'est la tarte à la crème, on le dit sans cesse, on le répète tout le temps, la santé, ce n'est pas seulement les soins. Bon, ben, très bien, ok, une fois qu'on a dit ça, on est dans la mode. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Dans le rapport Chauvin, c'est quand même intéressant de constater qu'il parle de la réorganisation du système de soins et de santé et que quand il aborde la santé au travail, je vous lis ce qui est écrit, « Concernant la santé au travail, seules quelques propositions sont esquissées dans ce rapport compte tenu de la nécessité d'approfondir cette thématique en lien avec les partenaires sociaux et les administrations concernées. » C'est-à-dire, santé au travail, on n'en parle pas. Mais si ce n'était que santé au travail, c'est en fait tous les déterminants de la santé qui sont complètement sous-estimés et non pris en compte dans cette nouvelle, soi-disant, approche de la santé publique. Aujourd'hui, si on a envie de progresser sur la santé des citoyens, une des questions est prioritaire, me semble-t-il, et nous semble-t-il au collectif, c'est vraiment cette question d'avoir une démarche globale de santé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une commune, ça veut dire qu'un département, mais prenons une commune parce que c'est le niveau de proximité intéressant. Au niveau d'une commune, un maire intervient dans le domaine de l'école élémentaire, intervient dans les cantines, intervient dans un avis sur les commerces, intervient sur le logement, intervient sur toute une série de déterminants de la santé. Et finalement, il peut être beaucoup plus contributif à la santé au sens de bien-être global, etc., tel que défini, que simplement en disant « il faut un médecin de plus », même si, bien entendu, le médecin est important aussi. Donc, cette question de l'approche globale de la santé, qui est un fondamental de la santé communautaire, est essentielle si on a envie de faire bouger les questions de santé dans ce pays.
On va faire une première petite pause musicale avec des soignants de Rennes et de Nice qui ont repris la chanson « Danser encore » de HK, qu'ils ont renommée « Soigner encore ». Et puis on reprendra avec toi, Marc.
Alors c'est une démission administrative, c'est-à-dire qu'on continue à soigner nos patients, à assurer la sécurité des soins dans nos services, mais on ne veut plus discuter avec la direction, en particulier de finances. C'est maintenant un sujet qui est devenu insupportable.
Pourquoi ?
Faussement comblé, prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance.
L'hôpital public en souffrance. C'est compliqué, faut en parler, faut continuer la résistance. Faire preuve de désobéissance. C'est le temps de l'inobservance. Wow, 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 wow.
Continuer à soigner encore.
pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en eux n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le moule, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce bas monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux, vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital meurt à petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre, vu que la guerre ça prend des billes, mais sauver des billes ça vous savez faire.
Oh non 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 non, nous on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Hostos, boulot, robot, c'est trop, pas les moyens, c'est la consigne, austérité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et tant pis pour la bienveillance. Le management autoritaire et tous leurs comptes d'apothicaire font s'envoler nos espérances. Ils font preuve de tant d'indécence, mais n'auront pas notre conscience.
On ne peut pas sans arrêt dire que la santé, c'est global, et ensuite travailler sur l'organisation du système de soins. Donc, aussi bien pour les professionnels du soin que des élus locaux, que des élus départementaux, qu'au niveau national, si on n'a pas une approche qui va s'intéresser à tous les secteurs qui contribuent, qui sont des déterminants de la santé, on ne s'en sortira pas. Comment telle décision nationale ou locale a un impact sur la santé? Et donc, comment on peut améliorer la réponse? Est-ce que, par exemple, si on prend l'accès à la cantine, est-ce que le prix du repas pour les enfants permet à l'ensemble des familles de bénéficier de la cantine? Voilà une mesure de santé. Ce n'est pas un centre ou une maison de santé, c'est bien une question de santé à travers la question du repas chez les enfants. Donc, ça, c'est un point très important de la démarche communautaire, de la santé communautaire, stratégie de promotion de la santé, qui est cette approche globale de la santé. Le deuxième point sur lequel je souhaitais aussi intervenir, c'est la question de l'implication des acteurs. C'est aussi un des fondamentaux de la charte d'Ottawa et dans la charte d'Ottawa de la santé communautaire, c'est l'idée de, sur une communauté ou sur un groupe ou sur un quartier ou sur une ville, comment, quand on s'occupe de santé, non seulement on a une approche globale, mais surtout on va mettre en mouvement l'ensemble des acteurs concernés par le problème. Ça veut dire tous ceux qui ont à voir avec le problème qu'on va aborder. Ça peut être des élus, ça peut être des professionnels du soin, ça peut être des professionnels de l'éducation, ça peut être des professionnels du logement, de l'urbanisme. Et ça doit être, évidemment, centralement, les habitants, usagers, citoyens. J'emploie cette expression qu'on reprend souvent, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'usager, ce n'est pas simplement le citoyen, c'est l'habitant, usager, citoyen. Et donc, cette question, elle est vraiment à la fois essentielle et j'ai envie de dire, et c'est aussi un des souhaits de notre collectif de travailler beaucoup là-dessus, y compris en échange de pratiques, etc. Là encore, on ressasse la question de la participation. On met ce mot dans tous les projets, on parle de démarches, parfois on parle même de démarches communautaires. Quand on regarde réellement là où les choses se passent, on a quand même encore d'énormes avancées à faire sur cette approche de implication de tous les acteurs.
Merci Marc. Tu as parlé de la charte d'Ottawa et elle a été signée en 1986, si je ne me trompe pas. Et cette charte d'Ottawa, on peut s'appuyer dessus. Ce qu'elle dit, c'est parfaitement ce que vous décrivez, sauf que la réalité, comme tu viens de le dire, est totalement différente. C'est comme si on avait deux mondes parallèles, là. Le monde où on s'écoute, on parle ensemble, on décide ensemble et on construit ensemble, et a priori, c'est plus efficace, et le monde tel qu'il est, il a été construit depuis 40 ans, je parle du système de santé. Dans le système de santé actuel, c'est assez, c'est catastrophique. Une question sur les maires qui sont, comme tu l'as dit, compétents dans des tas de domaines, sauf qu'on a déjà, dès la base, une inégalité, puisque ces maires n'ont pas tous la même formation, ces maires sont élus. Donc, en travaillant sur les territoires, sur des personnes, des individus, on travaille aussi avec des inégalités, mais ce sera toujours mieux que ce qui existe actuellement, je pense. Donc, voilà une question, comment on arrive à faire que ça reste égalitaire quand on travaille par territoire. Et puis, j'ai une autre question. Quelle est la différence entre, tu as évoqué centre de santé, maison de santé. Il y a deux appellations, donc il doit y avoir quelques petites différences. Je vous laisse la parole, qui commence.
Je veux bien répondre. J'ai quand même envie de dire, et c'est peut-être le privilège de l'âge ou le défaut de l'âge, qui fait que j'ai envie de prendre l'image du verre à moitié plein et à moitié vide. Évidemment, le lundi, on peut être complètement déprimé avec un verre à moitié vide en se disant « c'est terrible ». Toutes les décisions tombent d'en haut, les lits d'hôpitaux ferment, etc., etc. Et en même temps, le mardi, on peut dire, mais si je regarde, moi, mon expérience professionnelle et militante de quelques dizaines d'années, quand j'étais en activité, les centres de santé, les maisons de santé, il fallait pas en parler. C'était un secteur extrêmement critiqué par la médecine majoritaire, et il y a eu un développement très important, très original de maisons de santé, de centres de santé, de centres de santé communautaires. Et on peut dire que toute une série de choses, les élus s'intéressent beaucoup plus à la santé qu'il y a quelques temps. Donc, je pense que la situation est extrêmement complexe, extrêmement contrastée. Hein. C'est-à-dire que plein de choses ne vont pas, selon moi, dans le bon sens, mais plein de choses ont bougé et vont dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qui, du bon sens et du mauvais sens, prédominera ? Ça, c'est une autre question, évidemment. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas dans le monde de la santé et de l'organisation territoriale. Et dernière chose, maisons de santé, centres de santé. Les centres de santé, ce sont des structures à statut associatif ou municipal, et les maisons pluriprofessionnelles sont de statut privé.
Merci. Lucie, je te donne la parole.
Oui, pour répondre à ta question, moi, je pense que je serais un peu plus nuancée que Marc, mais je reprendrai un argument qu'il a développé sur la question de la participation, qui est celui de la récupération. En fait, je crois que, tout comme sur les enjeux de participation, il y a une vraie récupération aujourd'hui par un discours politique, médiatique, qui va effectivement mettre la participation à toutes les sauces pour finalement légitimer ces politiques publiques inégalitaires et libérales. Il y a le même mode de récupération en fait sur le développement des maisons de santé, centres de santé, etc., avec l'idée de valoriser du travail coopératif, du travail d'équipe, qui peut finalement se retrouver être simplement des façons de mutualiser des moyens et d'organiser les profits, avec notamment des enjeux de grands groupes, hein, y compris qui font de l'actionnariat, qui vont se positionner sur ce secteur-là parce qu'aujourd'hui, il est, pour utiliser leur mot, porteur, il est rentable. En fait, il permet de faire de l'argent. Donc, on voit ça, par exemple, avec des groupes comme Ramsay, qui possède, c'est une multinationale, hein, donc qui possède tout un tas de cliniques privées qui développent aujourd'hui des centres de santé. Ils vont salarier des professionnels, mais qui, par ailleurs, rémunèrent des actionnaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais pour moi, je pense qu'il y a aussi ces enjeux-là. Et que tant qu'il y a des politiques libérales qui ont des enjeux de faire du profit sur la santé, c'est quand même compliqué d'imaginer qu'on va pouvoir faire une réforme qui sert l'intérêt du bien commun. L'OCDE a annoncé que la santé était un domaine où on pouvait espérer faire 20% de profit.
Qui prend la parole, Hélène, tu as une question ?
Oui, moi je voulais revenir un petit peu, ça va un petit peu dans le sens de tout ce qui est dit depuis le départ, mais vous avez un peu tous pointé le problème d'implication de tous les acteurs, que ce soit les citoyens, les personnels de santé, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que la majorité des gens ne sont pas finalement assez satisfaits du système tel qu'il est aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont vraiment cette volonté de changer, de voir changer les choses ?
Oui, alors, ta question, je pense que les gens, les habitants et habitantes ont des problématiques différentes par rapport à la question de soins et de santé en fonction de là où ils habitent, puisqu'on a bien vu qu'il y avait des inégalités géographiques très importantes, en fonction aussi des catégories socio-professionnelles et de leurs difficultés ou pas à accéder aux soins. C'est clair que la consommation de soins, elle est différente en fonction de, il y a eu des études là-dessus, en fonction des catégories socio-professionnelles et des niveaux de revenus des gens. Donc tout ça, c'est des problématiques, je pense, dont les gens se rendent bien compte, réalisent bien. Là, je parle du système de soins. Par ailleurs, je pense que les gens se rendent compte très clairement, vivent en tout cas très clairement les implications de détérioration de la santé liées à leur travail, liées à leur lieu d'habitat, etc., sans peut-être toujours penser l'articulation avec la santé. Enfin, ils souffrent de ces situations-là sans penser obligatoirement à la santé. Après, par ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a pas de lieu où peuvent s'exprimer. Il y a peu de lieux, disons, à part des endroits effectivement qu'on a pu citer où sont mis en place des collectifs, des associations, des lieux de réflexion, où ces questions-là se débattent. L'habitant n'est jamais amené à s'exprimer là-dessus, tout au mieux à des réunions où il vient écouter ce qui peut être prévu sur un endroit donné. Mais voilà, donc je pense, enfin, il y a une articulation qui est à créer entre des problématiques réelles que les gens perçoivent et analysent à partir de ce qu'ils vivent, et le fait qu'ils puissent avoir la parole, et aussi que leur parole soit vraiment prise en compte. On peut le voir dans d'autres éléments de la vie, d'habitants. Sur ma commune, par exemple, il y a des réunions d'information, mais ce sont des réunions dans d'autres domaines, sur l'aménagement du territoire, par exemple. Mais en fait, ces réunions d'information, tout est décidé à l'avance. On n'a aucun pouvoir. Et quand ça fonctionne au mieux sous forme de petits groupes, discuter des thèmes, en fait, on n'a pas de pouvoir de décision. Tout est déjà décidé, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on se dit « à quoi bon y aller ?» Donc, c'est un réel problème si on veut. Il faut non seulement faire semblant de réunir les gens en concertation, enfin, il ne faut pas faire semblant de réunir les gens en concertation, mais il faut réellement pouvoir partir de leurs problématiques.
Je trouve que c'est vraiment une question passionnante que vous posez. C'est une question centrale. Parce que elle pose tout à la fois la question de ce que c'est que la santé et de ce que c'est que le pouvoir des habitants. J'ai un truc que je ne peux évidemment pas vous montrer, qui est une enquête qui avait été faite auprès d'habitants dans un quartier où on leur demandait quels étaient pour eux, et c'était des professionnels de santé qui ont posé ces questions aux habitants, quels sont les trois problèmes de santé principaux que vous pensez avoir vous-même ou sur le quartier? Et à 65%, les réponses ont été des réponses qui n'ont rien à voir avec l'organisation du système de santé et des soins. C'était l'éclairage, c'était la sécurité, c'était les espaces verts. Et donc, les habitants, vous demandiez, est-ce que les habitants s'intéressent ? Ben, les habitants s'intéressent à toutes ces questions. Mais qui fait le lien entre ces questions et la santé ? D'accord ? Quand un élu va faire une réunion sur l'aménagement d'un quartier, est-ce qu'une seconde avec son directeur général, il va penser que ça peut avoir des effets sur la santé ? Évidemment pas. Et les gens de la santé, eux, sont d'une culture qui est quand même d'abord celle du soin. Si vous regardez les professionnels, y compris de santé publique, on est quand même encore essentiellement dans le soin et l'organisation du système de santé et de soins. Donc, aujourd'hui, j'insistais sur l'idée de démarche globale de la santé, ce n'est pas simplement une formule pour reprendre Ottawa. C'est qu'aujourd'hui, un des enjeux pour une agence régionale de santé, pour une maison de santé, pour un maire, etc., c'est de faire le lien entre les questions de l'alimentation, du commerce, du travail, etc., et la santé. Et là, les habitants sont intéressés parce qu'ils travaillent et ils souffrent au travail, ou parce qu'ils ont des problèmes de logement, ou parce qu'ils ont des problèmes de transport. Mais comme ça soulève des questions évidemment politiques majeures, on n'a pas forcément envie de faire un lien entre ces déterminants et la santé. Et on passe son temps à dire qu'il faudrait et on les sépare régulièrement. Je pense à une expérience dans une agence régionale de santé qui s'était intéressée à ce qu'on appelle les études d'impact santé. Hein, c'est un dispositif très intéressant qui essaye de comprendre justement dans d'autres domaines les faits sur la santé. Ils ont fait tout un travail sur l'évaluation d'impact d'une politique des transports. Excellent travail, remarquable travail. Il a été mis à la poubelle. Il ne servira absolument pas à donner des instructions ni aux responsables des transports, ni à l'agence régionale de santé. Donc, aujourd'hui, cet enjeu-là de la transversalité pour les habitants, mais aussi pour tous les décideurs, entre la question du soin, mais la question de la santé et de ses déterminants, est essentielle. Et pour répondre encore un peu plus à votre question, les habitants, ils s'intéressent, non pas seulement ils s'intéressent, ils agissent, ils sont dans plein d'endroits, mais est-ce qu'on leur donne la parole ? Est-ce qu'on les sollicite ? Est-ce qu'on les met dans les instances de décision ? L'exemple, et je terminerai là, excusez-moi, je suis un peu long, mais l'exemple des EHPAD est une illustration dramatique de cette absence d'implication des citoyens. Les citoyens ont été mis à la porte, ont été empêchés même de rentrer. Et demain, il n'y a aucune raison pour que les citoyens, en tout cas, ça ne se dirige pas là-dedans, pour que les citoyens soient des co-décideurs de ce que doit être aujourd'hui un lieu d'accueil de personnes âgées et dépendantes. Donc, c'est un des exemples, mais on pourrait les multiplier, quoi.
Merci Marc. Alors effectivement, le temps avance, le temps tourne. Peut-être Lucie, pour reprendre un petit peu la parole et voir ce que vous avez tous et toutes envie de nous dire, encore un petit peu.
Bon, enfin, bon, moi je partage ce qui a été dit et puis je trouve que c'est intéressant de mesurer en fait là que oui, les habitants et les habitantes, en fait les gens du quotidien, là, ils sont dans la Charte d'Ottawa. Eux, ils y sont, quoi. La santé, en fait, ils font très bien le lien. Ils parlent de leurs problématiques. Quand on leur dit qu'est-ce qui vous rend malade, ils sont capables de décrire leur quotidien et de faire les liens, en fait, entre les déterminants de santé. Alors, ils n'en parlent pas avec des grands discours pompeux qui font des rapports de 500 pages qui servent à caler des armoires dans les ministères, mais ils y sont. La problématique, c'est que les décideurs et les décideuses politiques n'y sont pas, eux. Et la question, c'est pourquoi ? Puisqu'en fait, ils ne sont pas si différents de ces gens. Eux aussi, ils mangent, ils dorment quelque part, ils ont un travail, Donc moi, je pense que ça pose vraiment la question des rapports de force politique et en fait, de qu'est-ce qu'il y a derrière, à quoi on utilise les politiques de santé. Finalement, pas à améliorer les conditions de vie du quotidien pour chacun et chacune. Finalement, il y a des enjeux économiques qui sont plus forts, en fait. Et donc, la question que ça vient poser, c'est comment on fait rapport de force? Comment nous, les personnes, là, qu'on soit habitants, habitantes, malades ou pas, soignants ou pas, on se positionne à ces endroits-là? Et comment on se réapproprie, finalement, nos existences et à travers ces enjeux-là? Enfin, moi, je crois que c'est ça, hein, le sujet, là.
On va faire une deuxième pause musicale avec la chanson Un monde nouveau de Feu Chatterton.
Un vent, un grand vent nouveau souffla sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien, tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit du serveur central. Qui nous foutait la frousse. Tous les poils en même temps, la clarté nous pendait au nez. Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
On peut constater que sur certains endroits, enfin là par exemple on parlait de la région de Sainte-Pazanne qui est proche de chez nous et de ce collectif Stop au cancer de nos enfants, et, enfin, il y a eu une véritable démarche où les gens, parce qu'ils n'avaient pas de réponse du système de soins et de réponse institutionnelle à leur questionnement de pourquoi un cluster là où nous habitons, les gens se sont mobilisés et ont mis en œuvre toute une démarche de recherche, de discussion, de travail avec des chercheurs et de prise en main réellement, eux, des caractéristiques de leur secteur. Voilà, après démarche, la question, enfin, c'est extrêmement difficile parce que c'est des sujets complexes aussi. C'est aussi sur la, par exemple, dans ce cas-là, c'est probablement sur la multifactorialité des cancers. Donc, l'impossibilité de répondre, on peut très, enfin, c'est pas tel, il n'y a pas des doses suffisantes là pour le faire, il n'y a pas des quantités suffisantes de pesticides, il n'y a pas, et comment ça fonctionne en co-action, tous ces déterminants environnementaux. Donc, enfin, je crois que les gens peuvent se saisir, mais il faut beaucoup d'énergie. Et en fait, dans un système de santé tel qu'on le souhaiterait, ce serait là le rôle des institutions, non pas parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites par les institutions sur la région, mais de pouvoir réellement entendre comment ça se passe et accompagner les gens dans leur recherche. Et puis, bon, ce que dit Lucie tout à l'heure, il y a des réels enjeux derrière quand on aborde la question des pesticides, quand on aborde la question des transports d'énergie électrique, enfin des lignes à haute tension, etc. C'est tout un système économique quand même qui peut être interrogé. Voilà, puis peut-être juste un point qu'on n'a pas eu le temps de développer là, mais sur la santé qui est enfin on en a parlé, on n'en a pas développé spécifiquement dans notre intervention, sur la santé, un bien commun qui ne peut être marchandisé, et autour, juste pour parler parce que c'est important, sur toutes les questions du numérique en santé, numérique qui à l'heure actuelle et à l'occasion du Covid a fait une percée encore plus importante qu'antérieurement, poser une alerte là-dessus. Une téléconsultation, ça peut être utile dans certains cas, mais ça ne remplace pas une réelle consultation. Et par ailleurs, tous les problèmes du collectage de données tel qu'on peut le voir à l'heure actuelle pour les dossiers et donc ce qui est en train d'être mis en place, mon espace santé, en fait, avec le consentement tacite des gens, puisque votre dossier personnel est ouvert, sauf contradiction de votre part. Donc, alerter là-dessus, on n'a peut-être pas le temps de développer. Mais à quoi sert un dossier où viennent s'empiler tous les données de la personne? On sait bien, comme c'est compliqué, nous, en gestion des dossiers médicaux des gens, d'avoir quelque chose qui est réellement utile et qui sert à accompagner les gens. Est-ce qu'un portefeuille, enfin un porte-dossier où tout est empilé, va servir réellement à soigner les gens? Ou est-ce qu'il n'y a pas un risque majeur, de passer outre leur consentement, enfin outre leur désir d'ouvrir ou pas ce dossier, puisque c'est un consentement tacite, donc on ne peut pas appeler ça vraiment de la participation. Deux, risque de piratage des données. Et trois, à quoi vont servir toutes ces données qui, certes, sont pseudo-anonymisées avant d'être mises sur le grand collecteur de données, là, le Health Data Hub, mais ensuite, derrière, quelle utilisation marchande de ces données? Voilà, c'est tout un sujet à développer.
Merci Marie. Lucie, tu voulais parler, je pense, un petit peu de la santé, un bien commun. Est-ce que tu veux faire un petit point là-dessus?
Oui, je peux reprendre un peu ce que vient de dire Marie, en particulier, je pense, sur le numérique. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux sur la question du bien commun. Pour nous, c'est très clair que tout profit sur la santé et donc sur les soins, quel qu'en soit le type, doit être exclu. D'où ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, l'interdiction de dépassement d'honoraires, de la spéculation sur les activités de soins, donc la possession des cliniques privées, là, mais aussi des EHPAD avec des fonds de pension ou des actionnaires privés, ainsi que les assurances du risque sanitaire, comme les assurances complémentaires. Pour nous, c'est très clair qu'on doit mettre en place une assurance maladie obligatoire, publique, exclusivement. Donc voilà. Mais il y a aussi la question des professionnels de santé, de leur formation qui doit être indépendante de tout conflit d'intérêts vis-à-vis des industriels des produits de santé, mais aussi des assurances et des entreprises du numérique. Puisqu'il y a toujours de façade un discours sur des objectifs de facilitation, d'optimisation, qui en fait servent essentiellement à capter et marchandiser de la donnée, des éléments et en fait nos vies, nos existences. Et ça a aussi un impact sur le contrôle social hein, qui est augmenté par ces pratiques-là. Donc oui, pour nous, hein, là aussi, le numérique, comme toute pratique, tout produit utilisé en santé, doit être éthique au service du bien commun. Il doit garantir le secret médical et le droit des personnes. Et il ne doit pas être une source d'exploitation ou de recherche de profit à travers la collecte de données notamment. Voilà, donc nous, on appelle hein, au boycott des professionnels de santé qui pratiquent les dépassements d'honoraires, à refuser tout financement privé pour le fonctionnement des structures de soins dans lesquelles nous travaillons et à se battre contre l'implantation de ces structures de soins sur nos territoires. On est forcément en faveur d'une formation initiale continue et indépendante qui va refuser tout lien avec les entreprises des produits de santé et promouvoir du coup des outils qui existent. Hein. Il y a de la littérature indépendante telle que la revue Prescrire ou la revue Pratique. Voilà. Et puis il y a aussi une loi hein, qui dit que les professionnels doivent afficher leur conflit d'intérêt lorsqu'ils interviennent dans les formations. En fait, bon, ces lois ne sont pas appliquées. Et puis enfin, sur le numérique, on appelle aussi à être très vigilant là, à la collecte des données qui se met en place de façon exponentielle avec le Covid qui a effectivement ouvert les vannes et donc à refuser certains outils qui sont proposés par l'État, notamment mon espace numérique de santé. Voilà, donc ça, bon, on pourrait redévelopper hein, ces aspects-là, mais c'est des outils qu'on a aussi diffusés, qui existent sur le site internet du syndicat de la médecine générale. Voilà, peut-être que je peux en dire rapidement.
Merci. Hein? Et Marc, oui.
Oui, je voudrais juste, vous ne serez pas étonné, confirmer de mon point de vue. Suite à l'échange qu'on a eu là, le pouvoir, me semble-t-il, des démarches communautaires en santé. Je pense, c'est pour ça que je me suis à ce point engagé et que le collectif s'y est engagé, c'est quand même quelque part une forme d'éducation populaire. C'est quand même, chaque fois qu'on peut développer des démarches communautaires, l'occasion de mieux conscientiser les uns et les autres sur les problématiques de santé, et ça me semble faire avancer nos différentes préoccupations communes qui ont été exprimées là. Donc, notre travail du collectif va être d'essayer d'essaimer sur les Pays de la Loire ces pratiques d'implication citoyenne et de l'ensemble des acteurs, et je le dis là sous forme de publicité, on devrait faire dans les semaines qui viennent une rencontre pour élargir le cercle des associations déjà membres. Nous appellerons tous ceux qui sont intéressés à développer ces démarches communautaires, à nous rejoindre, à échanger sur les pratiques et voir comment on peut faire participer beaucoup plus et dans beaucoup plus d'endroits les citoyens aux décisions et aux questions qui les concernent.
Merci à vous trois. Merci à Hélène pour son soutien constant dans la construction de ces émissions. Je rappelle que nous allons faire une journée santé le 7 mai à Saint-Herblain, Salle-Bretagne. Vous êtes cordialement invités à venir vous informer et à débattre sur tous les sujets qui concernent la santé dans l'objectif d'améliorer ce système de santé. Un grand remerciement également à la radio Jet FM qui nous a accueillis pour ces 5 émissions et nous a donné tous les moyens nécessaires à la réalisation de ces émissions.